Salut tout le monde, je suis là, 2 petites minutes de retard. J'ai pas branché mon micro. Hop, hop. Et Twitch. Branché. Ça va, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? 5 sur 5, top! J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis désolé, j'ai pas rangé les lumières et tout. Vous êtes encore dans un studio en tournage. 2 minutes de retard, c'est honteux. Remboursé, je suis complètement d'accord. C'est bientôt les vacances, il y a relâche, on va dire. Il y a relâche, il y a relâche. Allez, j'aimerais remercier les tipeurs ce matin. On va remercier Jeff, on va remercier Deus Furia, Blind, Note Benjamin et Vino31, tipeurs depuis 9 mois. Un grand merci à vous, les gens. Merci les tipeurs, merci les contributeurs. Grâce à vous, on est là, on avance, on progresse. Et ça va donner en 2018. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu en direct, Axel. Eh bien, ravi de te voir en direct. Salut Vertige. On s'est vu avec Vertige hier à la soirée, hein, à la soirée Early Bird chez Shadow. Donc, elle me disait que je ne serais pas réveillé à temps, que je n'aurais pas d'article. Eh bien, détrompe-toi. Rien n'arrête Texcope. Même pas quelques bières. Salut, je suis Jeff Jean-Claude sur Twitter. Je mets BitConnect à poil. D'accord. Ok. Oui, après, je vous garantis pas des très belles photos de vacances parce que c'est d'abord des vacances en famille et on n'est absolument pas sûr d'aller en montagne. On verra. Mais voilà, c'est pas des vacances genre exploration beau paysage, c'est surtout des vacances en famille. Allez, de quoi on va parler ce matin? Eh ben, on va parler d'iPhone, on va parler d'iPhone. Est-ce que Apple ralentit la production? Est-ce que les ventes sont hyper décevantes? Un article de PhoneAndroid. Et justement, je parlerai un petit peu de cet article et du contexte de cet article, parce que c'est un petit peu intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. On parlera également de BitConnect. Non, ce n'est pas tout à fait le Bitcoin. BitConnect, c'était une plateforme. Je dis bien c'était, parce qu'a priori, ça a explosé. Et qui aurait été une pyramide de Ponzi. Si vous ne savez pas ce que c'est pas un personnage de Disney, un Ponzi. C'était un Italien, je crois, Ponzi. Je sais plus, je crois que c'était un comptable ou un truc comme ça, qui a inventé les pyramides de Ponzi, qui sont en fait des escroqueries. Et je vous parlerai un petit peu justement du BitConnect. On parlera également de Sony. Sony pour qui le smartphone n'a pas d'avenir. Et pourtant, ils vont continuer à en faire. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Le son n'est pas très fort. Peut-être que mon micro est placé un peu bas. Vous savez, je n'ai pas de bouton de volume. Hein, donc, je peux régler ça qu'en réglant la distance du micro. On parlera également de Ledger, un spécialiste des coffres-forts à Bitcoin français, qui vient de lever 60 millions d'euros. Donc, bravo à eux. On parlera un petit peu de ça, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. On parlera également de Spotify. Spotify qui va lancer Spotlight pour réinventer la radio et surtout les podcasts et les podcasts audio. Ledger et son CTO qui t'a blacklisté sur Twitter. Ah, d'accord, ok. bref. On parlera également de Canal Plus qui sort un nouveau décodeur. Est-ce que ça nous hype ou pas du tout? On en parlera, ça sera vers la fin d'émission. Mais on terminera par notre rubrique Yacht et People, nouvelle rubrique dans Techscope. On va parler de yacht de luxe et de petites pépées, puisque nous parlerons du yacht que vient d'acheter Mark Zuckerberg, un magnifique yacht à 150 millions de dollars. Pas mal quand même, pas mal, pas mal. On en parlera en fin d'émission. Je suis jaloux, moi je veux un yacht aussi. Pour l'instant, j'ai qu'un canot pneumatique. Le Galascope. Voilà, on va lancer ça. Allez, c'est le sommaire. J'espère qu'il vous va. On n'en a pas d'autres. De toute façon, on va pouvoir commencer cette émission. J'espère que votre café, votre thé, votre lait, votre chocolat et tout ce qu'on peut boire au petit déjeuner de non alcoolisé, parce que c'est pas bien sinon, au petit déjeuner et bien dans votre tasse, et que vous êtes bien arrimé pour pouvoir commencer l'émission. Dernière avant nos vacances, dernière de la semaine. Donc, on va tâcher de faire ça sur un bon rythme. Un vinaigre de cidre à jeun. Oh, le pire que j'ai bu quand même un petit déj dans ma jeunesse, c'est de faire un petit déj au pastis pur. C'est pas bon, c'est très dur. C'est le genre de truc conneries qu'on fait quand on est jeune. Et c'est pas bien. Exemple à ne pas suivre. Une nuit blanche, donc encore à la bière. Pas mal. Ça va. Tant que tu t'es pas endormi, c'est pas un petit déj. Hein. Allez, on continue. On commence. On va parler effectivement d'iPhone. Un article de phoneandroid.com. iPhone 10, iPhone 8 et 8 Plus, Apple ralentit la production à cause de ventes décevantes. Ce que nous dit cet article, c'est d'après Digitime, un rapport de Digitime, les fournisseurs de composants d'Apple enregistreraient une chute de 15 à 30% de la demande escomptée. Selon le rapport, plusieurs maillons de la chaîne de production vont devoir cesser partiellement la production de certains composants au cours du mois de février. Donc d'après ce rapport, les ventes de l'iPhone 10 et de l'iPhone 8 seraient hyper, hyper décevantes, bien en deçà des prédictions d'Apple. L'iPhone 10 ne se vendrait pas. L'iPhone 8 et 8 Plus, encore moins, quelque part, parce que les deux sont liés. Et il conclut d'ailleurs l'article en disant, c'est la phrase qui m'a un peu fait marrer, « Si ces mauvais chiffres de vente se confirment, comment va réagir Apple ? Tim Cook pourrait-il décider de baisser le prix de l'iPhone 10 ?» Alors là, je pense que tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Ou en tout cas, tu ne connais pas bien l'histoire d'Apple. Ce qui m'a... C'est marrant parce que cet article, bah hier, on était à la soirée Early Bird Shadow et beaucoup de gens parlaient de cet article. Tu as vu, l'iPhone 10, il ne se vend pas bien. Ouais, non, franchement, ils se sont plantés Apple avec l'iPhone 10 et tout ça. Pourquoi pas ? De toute façon, on le saura dans pas longtemps puisque va avoir lieu le 1er février. Les résultats officiels d'Apple, résultats aux actionnaires et ce genre de choses. Donc, je suis allé voir cet article parce qu'il y a des gens qui me l'ont tweeté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « T'as vu, l'iPhone 10, il ne marche pas. » Donc, je suis allé lire cet article. Je l'ai trouvé, là où je l'ai trouvé bizarre, c'est qu'il est en contradiction avec un certain nombre d'articles dont je vous ai parlé qui disent que les iPhones se sont très, très bien vendus à Noël. Peut-être pas forcément d'ailleurs l'iPhone 10, mais que l'iPhone, en gros, avait 44% de part de marché à Noël, sur les chiffres de vente de Noël. Et j'ai cherché pour voir si d'autres sites parlaient de ça. Je n'ai pas trouvé, personnellement, vraiment d'articles qui présentaient les choses comme ça. Donc, c'est juste pour vous dire... Je ne suis pas du tout en train de dire que PhoneAndroid a fait un article anti-Apple, bad buzz, machin, parce que ça pourrait arriver d'ailleurs à d'autres marques. Mais c'est sûr qu'un article comme ça, bah, on a envie de le lire. Il va à contre-courant, effectivement, et il va plaire à une certaine clientèle Android qui se délecte effectivement de mauvais résultats Apple. Souvent, c'est des gens qui disent « Mais Apple, c'est bientôt fini. Apple, avec son manque d'innovation, etc. » Pourquoi pas, mais je sais pas. Ça m'a intrigué. Si vous trouvez des articles américains notamment qui relaient et qui ont un peu les mêmes chiffres, ça m'intéresserait. J'ai pas fait une recherche hyper longue, mais j'ai pas vraiment trouvé d'autres articles que celui-là qui parlent de ces chiffres-là et qui ont cette analyse-là en fait. Sera jamais fini Apple ? Non. Ça, c'est pas vrai. Aucune société, aucune civilisation, aucun pouvoir ne résiste à l'usure du temps. Le Wall Street Journal aussi qui dit ça. D'accord, ok. Ben, j'ai pas trop. En tout cas, c'est pas un article qui remonte dans les articles les plus lus, dans les trucs. Merci, Jade, pour ton... Je vous oublie pas, Pulse Jaune. Merci pour ton super chat. Apple n'est pas indétrônable. C'est vrai qu'Apple a un trésor de guerre énorme qui pourrait lui permettre de résister à énormément de mauvaises ventes et de mauvaises années. Mais aucune société, pour l'instant dans l'histoire du monde, aucune société ne résiste à l'usure du temps. Kodak, Panam étaient des sociétés qu'on croyait indéboulonnables. Et ben, elles se sont déboulonnées. Vous savez, il suffit qu'il y ait une énorme tendance mondiale de rejet de la technologie et qu'on se mette tous à faire des sacs en macramé et à coudre nos vêtements nous-mêmes. Un espèce de néo-hippie qui pourrait très bien arriver. Avec un rejet complet de la technologie, avec quelques gros cas de bad buzz qui font que nos civilisations occidentales riches rejettent complètement la technologie, c'en est fini d'Apple. Il suffit qu'Apple rate un virage d'innovation. Je ne sais pas, l'avenir demain, c'est que on est tous connectés parce qu'on a trouvé que les bananes étaient le meilleur outil de connexion. Je dis n'importe quoi, hein, mais et que Apple n'ait pas vu ce truc-là à venir et que ça soit finalement Royal Banana qui devienne l'entreprise qui rachète Apple dans 10-15 ans. Ça peut arriver. Apple est déjà passé à deux doigts de la faillite. Il ne faut pas oublier la phrase de Dell, c'est Michael Dell, qui avait dit à une époque, je serai Apple, je vendrai toutes mes parts, je mettrai la clé sous la boîte et je rembourserai mes actionnaires. Apple, banane, on reste dans le fruit. Oui, je n'ai pas été hyper original. J'ai trop hâte de Royal Banana. Allez, on va faire un trending topic avec Royal Banana New Technology. La technologie that you eat by the two ends. Ça, la banane, on la mange par les deux bouts, c'est une vieille pub que les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas connaître. Allez, défi, trending topic, Royal Banana. Royal Banana versus Apple. La Royal Banana 10. Avec son Face ID, la banane qui te reconnaît comme ça et hop, qui se pèle toute seule. Phononera, Mac Rumor et du 17.1. D'accord, donc il y en avait d'autres. Moi, en fait, je te montre. Ce que je fais, c'est que, vous voyez ici sur mon flipboard, j'ai plusieurs cases. Et ici, j'ai technologie. Et ici, technologie, je vois tous les articles qui trendent depuis, qui sont le plus lus, le plus vus. Et c'est vrai que j'ai tourné comme ça beaucoup de pages pour trouver le même article qui parle de la même chose. Et j'en ai pas trouvé qui trendait. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas eu d'article, mais en tout cas, il ne traîne pas. Je vous explique juste ma manière de chercher. Hein. Tu as la banane ce matin. Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire que l'article n'est pas vrai sur Apple. Je suis juste en train de dire que j'ai trouvé que l'article était relativement isolé. Et que, bah après, on verra en février. Et c'est tout à fait une probabilité que Apple ait des ventes décevantes de l'iPhone 10 à iPhone 8. Le truc qui me paraît bizarre, c'est qu'il y a des articles contradictoires. Il y a d'autres articles, et j'en ai montré un à quelqu'un hier, qui disent qu'au contraire, l'iPhone 10 fait partie des iPhones qui se sont le mieux vendus. Ben, Apple dira le contraire. Non, 2082 Claude, tu peux pas. Quand tu présentes tes chiffres aux actionnaires, tu peux pas cacher des mauvaises ventes. Tu peux pas mentir. Alors, tu as des manières de le présenter. Après, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y aura des manières de présenter les chiffres. Mais il y a un moment, les chiffres, c'est les chiffres. À part pour Apple, est-ce super grave? Bah oui, c'est de l'infotech. Je vois pas la question. Ah, j'ai raté un super chat. Mince, je remonte. Oula, je le trouve pas. Attendez, je vais essayer pour voir si ça c'est revenu. Mes infos super chat. Merci Arnaud pour ton super chat pour une fusion Wiko et Apple. Oui, c'est l'avenir d'Apple. Apple va se lancer dans le low cost sous Android. On n'a jamais eu les chiffres de l'Apple Watch. Alors, effectivement, on n'a jamais eu les chiffres pour une bonne raison. C'est que l'Apple... Alors, tu as eu les chiffres, mais en fait, ils étaient dans une colonne qui regroupe l'Apple Watch plus d'autres choses. Donc, on n'a jamais eu... En fait, Apple n'a jamais créé la catégorie Apple Watch. Elle est dans ses accessoires, en fait. Par contre, l'iPhone, il y a une catégorie à part, quoi. C'est pas une question de se délecter de cette news, c'est une question que c'est toujours intéressant d'analyser aussi, nous qui faisons une revue de presse, quels sont les articles, les marronniers qui reviennent souvent, qui font de la vue, qui font de la lecture, et c'est vrai que des articles qui présentent des mauvais résultats de Samsung, des mauvais résultats d'Apple, des mauvais résultats de sociétés, sont des articles... ou des spéculations sont des articles qui font beaucoup de vues. C'est juste ça, en fait, que je voulais dire. On n'en voit pas des iPhone 10 ? Ça dépend. C'est vrai que dans le métro, on n'en voit pas tout, tant que ça. Moi, j'avoue que dans le métro, je regarde beaucoup ce que les gens ont comme smartphone. Il y a des iPhone 10, mais il n'y en a pas tant que ça. Quelques iPhone 8, beaucoup, beaucoup d'iPhone 7. On sent que l'iPhone 7 a été pas mal acheté cette année par les gens qui avaient avant des iPhone 4 avec la vitre brisée, qu'on en voyait beaucoup. Là, on commence à en voir de moins en moins des iPhone 4 avec des vitres brisées. Après, tiens, il y a une vidéo marrante à regarder. Regardez chez Unboxing Therapy, une vidéo qu'il a faite au CES, où il a regroupé, on va dire, des influenceurs et des YouTubers tech, et il leur a fait montrer le téléphone qu'ils utilisaient vraiment, le téléphone qu'ils avaient dans la poche. Bah, en fait, il n'y a pas tant de gens que ça, mais la moitié avait des Pixel 2 et l'autre moitié avait des iPhone 10. Il n'y avait pas de Samsung, c'était assez marrant. Alors, ils expliquaient pourquoi. La plupart disent, on adore notre S8, notre Samsung, mais la batterie ne tient pas la route. Mais ouais, il y avait beaucoup de Pixel 2 et les autres, c'était des iPhone 10, en fait. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle était pas mal du tout. C'est assez intéressant. Allez, on enchaîne sur les annonces. J'en ai pas vraiment ce matin, si ce n'est de vous dire eh bien, que la semaine prochaine, on va accueillir des nouveaux et également des anciens que vous connaissez en remplaçant. Donc... la semaine prochaine, TechScope, eh bien, il y aura des nouvelles têtes. On vous demande effectivement d'être indulgent, sympa et cool, comme vous savez l'être dans la chatroom. N'oubliez pas que pour quelqu'un qui n'a jamais fait un TechScope, c'est pas toujours facile de suivre une chatroom. C'est pas toujours facile d'encaisser. Je vous le dis, hein, c'est de vous à moi. Parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous avez une réflexion... on va dire vrai, mais sur notre manière de présenter au moment de le faire ou quand vous écrivez, bon, il est chiant, ton article passe au suivant, ce que vous faites, hein, c'est votre droit le plus légitime. Nous, c'est quelque chose qu'on lit en direct, ou, enfin, qu'on prend en direct, auquel on ne peut pas vraiment réagir, genre, oh merde, je vais déprimer un coup. C'est pas toujours facile. Ça fait partie du game. Hein. Mais pour quelqu'un qui débute, ça peut être... un petit peu plus difficile à gérer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande d'être cool avec les remplaçants. Pour certains, que ce soit Vertige et Langue de Geek, ça va être la première fois qu'ils font TechScope en direct. Vous, vous êtes hyper habitués, eux, pas forcément. Ben oui, RP, je ne peux pas vous lire tout le temps, donc... on va dire que ça fait partie du jeu de TechScope. Si je lisais tout ce que vous écriviez, Je ne pourrais pas faire mes articles, je ne pourrais pas parler. Mon intention serait, c'est très très dur de vous parler tout en lisant en fait ce que vous écrivez. Donc oui, c'est un des défauts de Techscope, c'est qu'en fait, je vais lire vos commentaires à certains moments et pas à d'autres. Donc ce n'est pas un vrai dialogue. Voilà. Je suis désolé si ça en a l'illusion et l'impression. Mais la remplaçante d'hier n'était pas top, elle a même oublié son micro. Voilà, voilà. En tout cas, je vous demande de leur faire un super accueil. C'est Guillaume Lundi. Après, je ne sais plus. Vertige, je crois qu'elle fait mardi et jeudi. Il y aura Re-Guillaume mercredi et Langue de Geek vendredi. Ça va être ça. Ça va être ça, ça va être ça. Tout l'art est de poser des... Ouais, après, vous avez les vieux de la vieille de Techscope qui savent exactement le bon moment pour faire leur message dans la chatroom pour que je le vois. Allez, allez, on continue en tout cas. On va parler de BitConnect, effectivement. Le blockchain de Ponzi, enquête sur une escroquerie. Alors, là aussi, c'est un article... Attention, il y a des articles contradictoires. Là, c'est un article de Numérama. Certains disent, oula, on dit un peu n'importe quoi sur BitConnect, c'est pas complètement mort, ils sont en train de rembourser les gens. Bon, vous allez comprendre. En fait, BitConnect était une plateforme qui promettait une rente fixe grâce aux crypto-monnaies. Tout le principe, et pour vous expliquer un petit peu rapidement ce qu'on appelle un schéma de Ponzi ou une pyramide de Ponzi, ça me fait rire, Ponzi, ça fait personnage de dessin animé. Le principe, c'est que vous promettez, par exemple, à deux personnes que l'argent qu'ils vont mettre va leur rapporter tant de pourcents assurés. Si ils ramènent dans votre schéma, on va dire, chacun d'entre eux, quatre nouveaux clients. Donc, c'est un système de parrainage. C'est un système de parrainage avec des revenus garantis. Le truc d'une pyramide de Ponzi, c'est que en fait, vous financez les entrants avec les nouveaux entrants. Donc, en gros, une pyramide de Ponzi, ça marche très bien. Ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui y sont, tant que ça peut s'étendre. Mais le truc, c'est que c'est une pyramide. Donc, vous avez bien compris que pour que ça marche, et que l'argent arrose tout le monde, il faut, et c'est pas une croissance arithmétique, c'est une croissance géométrique, comme une pyramide. C'est-à-dire qu'il faut que la surface de clients soit sans cesse en augmentation. Et généralement, ça se termine très très mal, puisque au bout d'un moment, on peut pas, de toute façon, il y a un moment où même votre clientèle, ça dépasserait la population du monde. Et là, à ce moment-là, les dernières arrivées, généralement, se font égorger. C'est-à-dire, ils perdent tout ce qu'ils ont mis, la pyramide s'effondre. Je ne pense pas m'être trompé en expliquant un petit peu ce système-là. Donc, ce système, c'était un petit peu, effectivement, ce qui s'était fait autour de BitConnect, avec les moyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que un influenceur, un YouTuber... Aujourd'hui, ce sont des personnes avec les liens d'affiliation, et je suis le premier à le savoir. Aujourd'hui, quand je vous donne un lien d'affiliation ou des liens de partenariat, ben moi, ça me permet, en tant qu'influenceur, on va dire, de créer très facilement la clientèle qu'il me faut pour monter dans la pyramide, pour bénéficier d'une pyramide. Attention, je ne suis pas en train de dire que les liens d'affiliation sont une pyramide de Ponzi. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai que l'influence et ce qui s'est passé avec le BitConnect, surtout aux États-Unis, il n'y a qu'un seul, a priori, français, YouTuber français, qui est un petit peu sur le grill. C'est une chaîne qui s'appelait La Ferme du Mineur et qui aurait fait pas mal la promotion de BitConnect. Et si on étudie effectivement les niveaux de rentabilité selon le nombre de clients que vous arriviez à générer pour BitConnect, c'était un truc, même avec la chaîne La Ferme du Mineur, n'était pas gigantesque, elle avait 10 000 abonnés. Mais avec un schéma comme ça, ça permettait aussi de générer un revenu confortable assez rapidement quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe généralement avec ce genre de pyramide, c'est qu'un peu du jour au lendemain, BitConnect a mis la clé sous la porte. Et c'est certainement ce qui est le plus grave, c'est que les derniers rentrants n'ont plus du tout accès à leur argent. En gros, ils ont un peu tout perdu. Et il y a des témoignages, alors à prendre avec des pincettes, parce que certains disent que ces témoignages sont des faux. Donc, je vous dis de les prendre avec des pincettes. Mais un témoignage, ça serait par exemple quelqu'un qui a investi 500 000 dollars dans BitConnect grâce à un emprunt. Alors, c'est là où les choses deviennent catastrophiques, quand les mecs se mettent à emprunter pour... Vous voyez, c'est là où les cochons se font égorger. C'est quand les gens commencent à emprunter pour participer à ce genre de truc d'argent facile. Ben, c'est généralement les cochons qu'on égorge. Je devais récupérer la mise dans un mois ou deux. Aujourd'hui, je ne peux plus accéder au fonds pour vendre. Le marché s'est effondré. Bon, vous savez que le Bitcoin, est, ça ne veut pas dire qu'il s'effondre, hein, le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais là, c'est un petit peu en récession. Je ne peux pas rembourser l'emprunt. Ma famille a besoin de cet argent. Aidez-moi. Quand je vous parlais l'autre jour que le problème... alors là, attention, on n'est pas en train de parler des crypto-monnaies, on est en train de parler de BitConnect, qui était un système basé sur les crypto-monnaies, mais c'était le système en lui-même qui était une escroquerie, en fait. Les mecs appellent ça du marketing de réseau. Oui, attention, on a vite fait d'appeler tout et n'importe quoi une pyramide de Ponzi. Après, je ne suis pas assez spécialiste. Il y a quand même des différences entre un plan marketing avec de l'affiliation et des partenaires. Les ventes Tupperware empruntent un peu le même système que Ponzi, mais ne sont pas des pyramides de Ponzi. Il y en a qui entendent ça deux fois à la télé et comme ils sont assez influençables... Le truc, c'est que et c'est là où c'est hyper triste, et c'est là où on parle des cochons qu'on égorge. C'est généralement des gens vulnérables, qui ont déjà des problèmes d'argent, à qui on promet de l'argent facile, de l'argent rapide, qui, parce qu'ils sont dans une certaine détresse, c'est rarement les riches qui sont les cochons égorgés. C'est généralement du petit épargnant, où on lui dit, écoute, tu sais, si tu mises pas un peu gros, tu vas pas gagner gros, quoi. Emprunte, de toute façon, le truc est complètement garanti. Regarde, moi, ça me rapporte 7% garantie tous les mois, machin. T'as aucun risque. Hypothèque ta maison, emprunte, achète. Dans 2 mois, t'as doublé ta mise. Ça se termine généralement mal pour ces gens-là. Herbalife et leur kit. Ouais. Bon, après, on va pas... Manière générale, moi, je vous ai toujours dit ça sur les investissements en général, sur des actifs, mais encore plus, et là, je parle plus de BitConnect, mais des crypto-monnaies, l'argent que vous y mettez, si vous en mettez, estimez que vous l'avez déjà perdu. C'est en gros, si vous mettez de l'argent dont vous avez besoin, là, vous devenez un cochon qu'on égorge. Ne vous mettez jamais, jamais en danger avec ce type d'investissement. Oui, ça peut être très tentant de miser gros pour gagner gros, mais c'est là où vous commencez à prendre un risque qui peut être grave. Les nouvelles... C'est clair qu'après, je ne suis pas dans les détails, mais comment le mec a pu emprunter pour 500 000 dollars? Parce que généralement, quand vous empruntez une somme comme ça, on vous demande un petit peu pourquoi c'est. Au moins les 300 personnes qui regardent le live. Mais vous êtes plus que 300, parce que si y a les gens, effectivement, du replay. Moi, d'après les chiffres que j'ai, c'est relativement solide. TechScope est regardé avec les rediffs et tout, entre 2 et 3 000 fois par jour. Disons qu'on a une base fidèle à TechScope, en comptant effectivement ceux qui regardent le replay, de 2 000, 3 000 personnes. Donc c'est déjà bien si effectivement on peut adresser ce message de sécurité à 2000, 3000 personnes. Acheter du Bitcoin, 150 euros en 2011 et vendu à 18 000, t'en avais 10. Ouais, bah joli, David. Allez, on continue. Mais méfiez-vous, voilà. Méfiez-vous d'une manière générale des trucs qui sont trop beaux. Parce que trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas dans ces milieux-là. Et les gens qui vont vous dire qu'on peut gagner gros et c'est facile, c'est des gens qui généralement ont déjà gagné. Et qui ont besoin que des nouveaux rentrants arrivent pour continuer à gagner. Bref, allez, zou, la suite. Parlons un petit peu de Sony. Sony et le smartphone. Moins qu'on puisse dire, c'est que Sony n'a pas vraiment marqué l'histoire du smartphone par de grandes réussites. C'est marrant, hein, les smartphones Sony sont toujours des produits hyper intéressants, avec des qualités incroyables. Ils poussent le bouchon de l'innovation dans le smartphone toujours un petit peu plus loin que les autres. Mais ils ont toujours un gros défaut, moi je trouve. Ils font généralement, il y a des bons articles sur généralement les smartphones Sony. Sony Ericsson, oui, là tu me parles d'une autre époque. Je parle vraiment, pour moi, alors désolé ça va enfroisser certains, mais pour moi l'an 1 du smartphone, c'est l'iPhone. Je sais qu'il y avait des smartphones avant, je ne suis pas un con. Je sais qu'il y avait BlackBerry, je sais. Mais pour moi, le smartphone grand public tel qu'on le connaît maintenant, c'est 2007 et le premier iPhone. C'est ma manière de voir le marché. Je ne dis pas que les smartphones ont été inventés en 2007. Je dis que le marché moderne, on va dire, des smartphones, pour moi, a commencé en 2007. Bref, et depuis, effectivement, Sony a sorti des produits mi-figue, mi-raisin. Ils n'ont jamais fait non plus des gros fails. Mais si vous comptez le nombre de gens qui ont des Sony... Moi, Karina, qui avait un Sony, je crois que c'est la seule personne que je connais qui avait un Sony. Mais par contre, et c'est pour ça que Kazira, Kazirai, c'est le PDG de Sony, dit non, on va continuer dans les smartphones. Ce n'est pas parce qu'on n'en vend pas par des fourgons qu'on ne va pas continuer. Et que... il faut voir que Sony réussit peut-être pas à vendre ses combinés aussi bien qu'il le voudrait, mais par contre, par exemple, les capteurs, la plupart des smartphones sont équipés de capteurs Sony. Ils ont toujours, et pour l'instant, ils ont une position dominante sur les capteurs photo. La plupart de vos smartphones, c'est un capteur Sony qu'il y a dedans. Et d'autres composants aussi sont développés par Sony. Et ce que nous dit justement Kazirai, PDG de Sony, c'est que, en fait, Sony pense que le smartphone n'a pas d'avenir, que le smartphone va être remplacé par autre chose, et que, justement, s'ils abandonnaient le marché des smartphones, parce que c'est un de leurs marchés les moins performants, ils seraient en retard sur the next big thing. Donc, ils vont continuer les smartphones, mais, et c'est marrant de dire ça, sans avoir vraiment l'illusion de devenir un énorme... d'avoir la division de Sony n'est pas rentable en termes de smartphones. Mais par contre, quand on y réfléchit bien, d'autres plateformes de Sony bénéficient énormément de la recherche et développement qui sont faits pour les smartphones Sony. Regardez la partie photo de Sony qui a le vent en poupe en ce moment. Quand je vois le nombre de gens qui revendent leur Canon pour acheter du Sony en ce moment... c'est assez, en tout cas dans le monde de la photo, c'est un phénomène lourd. Sony bénéficie de la recherche et développement autour des nouveaux usages de la photo, du partage de la photo, des capteurs, pour également ses appareils photo. Je suis sûr même que la section PS4, gaming, machin, bénéficie aussi de recherche et développement de la division smartphone. Pascal, j'aime bien que des téléphones se ressemblent, je trouve. C'est un téléphone, quand on l'achète, pas obligé de manger des pâtes. « Oui, attention, il y a eu effectivement des réussites hein, quand même chez Sony. C'est pour ça que je vous dis mi-figue, mi-raisin. Ah oui, merde, t'as raison, David. Il faut dire téléphone mobile multifonction. On dit plus smartphone. Oh là là, je vais me prendre une amende par l'Académie française. Prépare tout spam, j'arrive sur keyboard d'ordinateur et plus smartphone fera un four rouge. Après, je suis. Ouais, je vais me prendre des amendes. Je vais me faire des auto super chat, effectivement. Chaque fois que je vais dire smartphone, mais putain, je vais être riche. Hein. Je vais être riche, mais vu que c'est moi qui paye, en fait, je vais me faire une pyramide de Ponzi à moi tout seul. Je vais m'auto-ruiner en devenant riche. L'homme le plus riche du monde se ruine tout seul en devenant le plus riche du monde. Le Ponzi en cercle fermé. Jérôme se fait des chèques. Bref, donc bah, moi je suis très content hein, que Sony reste dans la course. J'en ai jamais vraiment eu en main. Mais je trouve qu'il y a toujours des trucs intéressants dans les smartphones Sony. Mine de rien, par exemple, en termes d'étanchéité, c'est les premiers à avoir fait, si je ne me trompe pas, des smartphones étanches. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui les suit sur l'écran 4K dans les smartphones. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'ils ont souvent, effectivement, techniquement sur le papier, les meilleurs appareils photo, mais par contre, les résultats en photo ne sont pas top parce que c'est généralement leur formule de traitement électronique de l'image qui n'est pas vraiment au point, mais en termes de capteurs et d'optique, c'est vraiment bon hein, ce qu'ils mettent Sony dans leur smartphone. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Ils ont tenté à l'époque le mélange console avec la PSP, ouais. Tu dois avoir déjà 15% de tes amis avec du Sony, c'est pas mal. Ils ont toujours eu des idées, mais mal exploitées. Bah, Sony, pour moi, est le parfait exemple que l'innovation ne vaut rien si tu n'as pas un bon plan marketing. En gros, les gens n'achètent pas le produit le plus innovant, mais ils achètent souvent le produit qui est le mieux marketé. Et en ça, Sony, en tout cas pour leurs smartphones, ne sont pas très très forts en marketing. Ça, c'est. Mais déjà, ils font des erreurs. Sony, elles le font moins maintenant, mais étaient des spécialistes de. Ils annonçaient leur smartphone et leur smartphone, ils sortaient 8 mois après. Apple, par exemple, a tout compris. Quand ils annoncent un smartphone, il est dans les magasins la semaine d'après, généralement. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire. Ça y est, regardez ce beau produit. Putain, vous en avez envie. Ah, par contre, tu pourras aller mettre les mains dessus que dans un an, mon gars. Marche pas, ça. Sony n'est pas dans le top. Ça m'étonnerait que Sony soit dans le top 10 des vendeurs de smartphones, ça c'est clair. Allez, on continue. Putain, déjà 8h41. On va parler de Ledger. Effectivement, Ledger est une start-up française qui est spécialisée dans les coffres-forts à Bitcoin. Personnellement, j'y connais rien, mais en fait, les coffres-forts virtuels, c'est, si je ne me trompe pas, effectivement, c'est souvent sous la forme d'une clé, ça ressemble à une clé USB, avec tout un tas de sécurisation autour. Vous avez tous vu effectivement les histoires de gens qui ont perdu leur Bitcoin, etc. L'idée, c'est de protéger effectivement vos Bitcoins, les mettre dans des coffres-forts pour protéger ça. Et cette jeune pousse française, hein, puisqu'on ne dit pas start-up, cette jeune pousse française, je ne sais pas si on dit Ledger ou Ledger, je veux dire Ledger, ouais, ça c'est mieux que Ledger pour un coffre-fort. Ledger, donc, qui est spécialisé dans ces coffres forts virtuels, vient d'annoncer jeudi avoir levé 61 millions d'euros pour leur expansion internationale, dont dans les nouveaux arrivés dans le capital, le britannique Draper et surtout le français Corellia Capital, qui est le fonds d'investissement fondé par Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, ça vous dit quelque chose. Donc aujourd'hui, les besoins effectivement de Ledger, c'est de se lancer à l'international, d'ouvrir des bureaux à New York, etc. Aujourd'hui, ils ont quand même vendu, les chiffres étaient pas mal. Hein. Ils ont vendu, la jeune entreprise est passée de 30 000 ventes en 2016 à 1 million. Ils ont vendu 1 million de leur coffre-fort virtuel en 2017. C'est pas mal, quand même, comme vente de produits. Oui, Fleur Pellerin, c'était l'ancienne ministre du numérique. Ouais. En crypto, l'argent n'est jamais dans ton device. Voilà, c'est ça le principe, d'accord. Bon, bah, vous avez l'angle de geek qui vous a tout expliqué. Qui vous a tout expliqué. J'ai pas vu la série Startup. Faut que j'aille voir ça, effectivement. Ils annoncent un smartphone dans les magasins la semaine d'après. Et pour... Ah oui, toi, c'était sur l'article précédent. Yep, je remonte un peu ce que vous dites, hein, parce que... Yep. Oui, donc toi, ton problème langue de geek avec ces clés de Ledger, c'est que tu ne les trouves pas ergonomiques. Bah, écoute, ça, après, tout le monde est libre, effectivement, de trouver les avantages et les inconvénients des produits. Mais en tout cas, parce qu'une levée de 60 millions d'euros pour une start-up française, c'est pas mal. Je ne sais plus, mais Shadow avait levé 57 millions, je crois, l'année dernière. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Ça commence à être des bons chiffres. Et c'est assez rare dans le milieu quand même des startups françaises pour le signaler, quoi. Dire que dans Star Trek, ils n'ont pas d'argent. Oui, bah, ils n'ont peut-être pas d'argent dans Star Trek, mais du coup, ils sont obligés de s'habiller en pyjama. Parce que tu as vraiment envie de ça dans l'avenir. Déjà, le Play Store se prend des fausses apps, alors un Google Chrome Store, faire une fausse app validée qui te fait phishing à ta clé me paraît trop facile. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, généralement, des startups de cette taille-là, ils ne sont pas encore cotés, ils ne sont pas encore rentrés en bourse. Blade, la société de Shadow, n'est pas en bourse, et Ledger non plus, quoi. Ledger se manage par une app du Google. Alors, ça devient trop technique, langue de geek. Mais c'est intéressant. Spock en pantoufle licorne, tout à fait. Allez, on avance pour parler de Spotify. Spotify qui va lancer Spotlight. Et Spotlight, qu'est-ce que ça va être? Ça va être effectivement un reboost, en fait, de la radio et des podcasts audio sur la plateforme Spotify. Spotify, ça fait pas mal de temps hein, qu'ils jouent avec l'idée du podcast. Nous, on avait été contactés il y a 4-5 ans hein, par Spotify, même plus longtemps que ça, puisque c'était à l'époque de No Watch, si mes souvenirs sont bons. Ah non, c'était après No Watch, mais ils n'étaient pas au courant que No Watch était fini, justement. Et j'avais été contacté par les gens de Spotify. Non, ils n'avaient pas de quoi remonter No Watch, hein. C'était pas là l'idée, mais ouais, j'avais été interrogé, du coup j'avais rerouté Spotify vers Patrick et tout ça. Et donc là, ils se lancent vraiment pour créer effectivement du contenu. A priori, ils ont déjà signé, alors pour l'instant ça va être aux États-Unis, mais ils ont déjà signé avec BuzzFeed, Refinery29 et d'autres pour créer du contenu balado-diffusion, merci. Du contenu balado-diffusion podcast sur Spotify. Et c'est vrai que, dans l'absolu, c'est une très bonne idée. Je pense que d'ailleurs, tous ceux, tous les streamers de musique, et j'avoue que je trouve ça très très con qu'Apple et ne profite pas plus de la section podcast, qu'il la sépare finalement de l'offre musique. Moi, je trouve que là, Apple fait n'importe quoi avec les podcasts, mais ça depuis 7-8 ans, quoi. Donc, c'est bien que Spotify, parce qu'on le sait, hein, y a un renouveau dans la mode du podcast audio. C'est vrai que le podcast audio, c'est pas quelque chose qui va disparaître parce qu'il y a des YouTubeurs. Il y a plein d'occasions et dans votre moment de vos journées où vous pouvez pas regarder un truc. Par contre, vous pouvez écouter un truc. Et c'est quand vous êtes en voiture, ce genre de choses. C'est là où les podcasts audio ont toute leur raison d'être et un grand avenir. Sachant que là, l'idée, c'est de faire de l'audio amélioré dans le sens où ça sera quand même illustré. Alors, ça sera pas de la radio filmée, mais par exemple, ça serait l'émission de Patrick. Imaginons le rendez-vous tech sur Spotify. Il y aurait des illustrations pour illustrer les sujets dont Patrick parle. Des images peut-être fixes ou des courtes vidéos muettes pour illustrer les propos. Donc, ça serait du podcast audio illustré. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, c'est ma grande malédiction. C'est que je ne peux plus écouter de podcast audio parce que j'ai peu de déplacements, finalement. Et quand je travaille... Enfin, le travail où je pourrais mettre même de la musique ou des podcasts, quand vous faites du montage en vidéo, non, vous ne pouvez pas écouter un podcast en même temps. C'est juste pas possible. Et du coup, je suis plus très podcast audio. Mais la plupart d'entre vous, vous avez des déplacements ou des activités qui vous permettent de mettre du podcast audio. Ah bah oui, il faut écouter son montage. Hein. Le montage, on a le casque sur les oreilles. Et un montage en vidéo, c'est autant de l'audio que de la vidéo. Hein. Quand on vous dit que la vidéo, c'est le son le plus important, dans le montage, c'est pareil. Mais le truc, c'est que moi, je prends peu... Enfin, à part quand je vais sur un tournage, je me déplace. Bon, après, j'ai quand même des déplacements. Mais le truc, c'est que c'est vrai, quand je suis en déplacement, j'écoute plutôt de la musique, parce que j'ai peu d'occasion d'écouter de la musique, donc quand je me déplace, c'est généralement de la musique, moi. Voilà, en tout cas, bonne idée, vous trouvez pas ça ? Vous, ça vous plairait sur Spotify d'avoir les podcasts ? Ouais, en même temps, ma question est débile, vous allez tous me dire oui. Quand je vais courir tous les 3 jours. Ah oui, non, courir avec un pote. Non, ça n'arrivera pas. Et le truc, très honnêtement, alors je fais quand même, hein, d'un point de vue hygiénique, je fais. Là, j'avoue que j'en fais pas assez parce qu'il fait trop froid, mais je marche beaucoup. Et je vais surtout faire des marches photo. Et quand je fais de la photo, j'aime bien avoir de la musique sur les oreilles. Ça m'inspire. J'arriverai pas à faire mes balades photo avec Patrick dans les oreilles. Ça me déconcentrerait trop. Non, mais langue des geeks, il y a un moment, il faut que tu sortes de la bitchain, du blockchain. Hein. Bientôt, tu vas nous parler des croissants coins, du papier Qcoin. Hein. La bitchain. Voilà, c'est comme ça que tu aurais dû appeler effectivement ta chaîne YouTube. Je pense que ça aurait eu un certain succès. La bitchain, la chaîne qui vous parle que de bits. Moi, je dis, là, plein d'abonnés. Lolcoin. Oui, mais probablement qu'il y aura des musiques coin. Après, attention quand même à l'effet de mode coin. Ça marche avec Android, la BitChain. Oui, c'est un principe, c'est pas un logiciel. Visa a bloqué ses cartes oui, liées à la crypto. N'oubliez pas qu'on est une période très pionnière encore pour les crypto-monnaies. Hein. Les choses vont se faire dans les années à venir. Mais... La chocolatine coin, effectivement. Kazen Estat préfère écouter des podcasts que de la musique. Oui, bah écoute, grand bien lui fasse. Le bit canard qui fait bitcoin, bitcoin. Pas mal, Pascal. Allez, on continue. Je vais la faire brève. Canal Plus dégaine un nouveau décodeur. Ça vous intéresse ou pas? Est-ce que, alors, on va faire l'article le plus court de l'histoire de Techscope. Est-ce que ça vous intéresse, un nouveau décodeur chez Canal Plus? Est-ce que vous êtes intéressé par Canal Plus? Bim, bim, bim. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah oui, ok, eh bien on va faire l'article pour Christophe, le seul intéressé par un nouveau décodeur. Ah non, il y en a deux. Milou aussi. Pas Canal Plus en Belgique, fou des pornos. Allez, non, très rapidement, Canal présentait effectivement son nouveau décodeur qui va avoir un nouveau look, design épuré, mais surtout, le décodeur doit mieux valoriser l'offre Canal, donc il va être 4K, HD, vous pourrez, ça c'est pas mal. Avec un décodeur, vous pourrez regarder quatre contenus différents si vous avez plusieurs téléviseurs qui sont reliés, vous pourrez regarder chacun un programme différent de l'offre Canal. beaucoup, effectivement, de leurs productions seront présentées en 4K et d'autres productions anciennes vont être restaurées, seront compatibles 4K. Il y aura un enregistreur de 320 Go dessus, pourra être porté jusqu'à 1 Teraoctet avec un disque dur supplémentaire. Compatibilité, effectivement, 4K UHD et Dolby Atmos, avec un processeur dual-core, 8 tuners intégrés, un super enregistreur. Ils ont fait aussi un accord au niveau musique avec Deutsche Grammophon et ils ont quand même tout le catalogue Universal Music. Hein, Canal+, c'est le groupe Bolloré. Hein, alors, a priori, ce nouveau décodeur là, a nécessité 18 mois de travail. Donc, il y a intérêt à ce qu'il soit bien. Le truc, c'est que, et c'est pour ça que c'était intéressant que je vous demande au début si ça vous intéresse, je crois que, on va appeler ça la génération Netflix, on reviendra pas en arrière. On a trop pris goût à regarder, à binge-watcher des séries quand on a envie, de ne plus être soumis à de la diffusion. On aime bien avoir des rendez-vous live, hein, vous êtes là à 8h le matin pour suivre un live, et on retrouve ce côté de partager ensemble un live, ça restera toujours. Mais pour des séries et des films, voilà, vous voulez choisir le moment où vous avez envie de le regarder, pas même pas être obligé de l'enregistrer pour pouvoir le regarder quand vous voulez, quoi. C'est un modèle économique qui, pour moi, est effectivement en plus assez cher. Moi, je sais que je n'ai aucune... ils m'envoient régulièrement leur courrier, Canal+, mais... très peu d'intérêt. Et c'est pas tellement la fraîcheur des films qui m'influence. C'est vrai que sur Canal, vous avez quand même des films récents, quelque part, oui, c'est plus récent. Mais à la limite, je m'en fous parce que sur Netflix, j'ai toujours un truc à regarder, quoi. J'aime la télé, c'est mon côté vieux con. Ben non, pas du tout. Oui, MyCanal, c'est l'équivalent à Netflix. Hein. Ils ont lancé aussi leur offre. Mais c'est là où moi, je serais allé beaucoup plus loin. Canal+, doit faire sa révolution et se mélanger, effectivement, à une offre. Bon, après, ils butent sur des points légaux pour faire ça. Mais Canal Play et Canal+, ça devrait être la même chose. The End of the Fucking World, quelle chouette série là sur Netflix, effectivement, je vous la conseille. Canal Plus est touché par le cord cutting comme aux USA. Ouais. La seule chose que je regarde sur la télé, le Techscope. Ah, classe! Arctic Music Coin sur le blog de Corben. J'ai toujours un temps de retard sur Corben. App My Canal gratuit, et tu vois Canal Plus et Canal Replay. Et tu peux caster. Oui, mais tu es obligé de payer les deux, David. Si je me trompe pas, tu dois payer Canal Plus et tu dois te payer Canal Play. Non, tu n'es pas obligé de te payer les deux. Gratuit? What? Attends, ma canal gratuit et tu vois Canal Plus et Canal Replay, tu peux caster. Tu es en train de nous dire qu'on a accès à tout le contenu Canal Plus gratuitement avec une app? Non, la télé va pas mourir en tant qu'objet. Hein. Pépé Garcia est là pour longtemps. Mais moi, je parle de la télé dans les moyens de diffusion. Oui, c'est un mois de Canal Plus gratuit. C'est pas gratuit à vie, quoi. Un mois gratuit, oui, d'accord, ok. Oui, c'est pas gratuit, un mois gratuit. C'est juste une première dose pour que tu deviennes drogué. Allez, on va terminer cette Techscope avec notre rubrique People. Alors, c'est vrai que Mark Zuckerberg nous a beaucoup parlé de ses dons philanthropiques. Il n'allait pas vraiment empocher tous les bénéfices de ses actions Facebook. On en viendrait presque à le plaindre et à se dire Mark Zuckerberg est obligé de mettre des vieux sweatshirts un peu pourris. Le pauvre, on lui donnerait presque 6 francs 6 sous. Bon, est-ce que Mark Zuckerberg est quelqu'un qui se baladera toute sa vie avec des vieux sweatshirts et en tongs? Probablement, mais il se baladera en tongs avec son vieux sweatshirt sur le Expedition Yacht, puisqu'il vient d'acheter effectivement un yacht à 150 millions de dollars. Ultra luxueux, dans la baie de Monaco. Il l'a racheté à un autre billionnaire qui est Graham Hart. C'est pas Jonathan Hart qui est millionnaire? Ça m'a fait rire, Graham Hart. Alors, je vous montre hein, quand même la vidéo parce que je vous propose quand même qu'on commente ensemble. Parce qu'on est là à dire « Ouais, les salauds de riches et tout. » Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que la vie d'un riche sur un yacht. Je vous montre quand même la vidéo de pub pour ce yacht. Pourquoi il ne veut pas se lancer? Putain, ils n'ont même pas d'argent pour se payer un player. Ça y est. Hein, commentons ensemble. « Where would you like to go ?» Alors, voici votre nouvelle maison. Alors, je commente en direct, hein, c'est un très, très gros yacht. Alors, regardez, première misère, vous êtes obligé de partager votre hélico avec des gamins qui font du bruit, machin. Hein, déjà, pour aller sur votre yacht, puisque effectivement, ce yacht bénéficie d'une piste d'hélicoptère. Ensuite, vous êtes accueilli par la jeune fille au père qui a passé la journée avec un verre à la main. Le capitaine, quand même, regardez quand même le capitaine qui vous toise de son petit regard sournois et qui vous fait croire que vous pouvez choisir la destination. Là, vous avez votre femme avec son petit maillot de bain hein, qui vous échappe hein, parce qu'elle préfère être dans la piscine. Et là, vous avez votre connard d'ado hein, à une piscine que vous avez payé quand même très très cher qui renverse tout. On vous oblige à faire du ski nautique derrière et à faire des sauts. Là, c'est le service de nettoyage de votre yacht, vous avez vu, avec des jet skis et tout ça. Ils sont obligés d'éclabousser le bord de votre yacht pour nettoyer la coque. Ça fait un bruit de pas possible. Après, vous avez toujours le crétin avec son jet ski qui va s'amuser à faire des sauts dans votre traînée. Là, c'était la vidange des chiottes. Hein, ça pue quand même. Non, mais voilà, on réalise pas les misères quotidiennes. Plan imposé. Il y a toujours des gens qui s'incrustent le soir quand vous faites un dîner. Vous pouvez jamais dîner tranquille. En plus, c'est le dîner bien malaisant où il y a toutes vos maîtresses à table. Hein, en tout cas, tous vos amants et toutes vos maîtresses qui sont à table. Du coup, vous réfugiez dans l'alcool. Hein, vous êtes obligé de boire. Là, il y a un du groupe qui dit « Ok, moi, je reste pour ce soir ». Pendant ce temps-là, les autres sont en train de faire des trous sur votre table de billard devant le bar et de boire tout votre bon whisky. Les gamins avec qui vous avez partagé l'hélico, bah, ils sont en train de se taper la jeune fille au père. Hein, vous avez vu, ça s'est passé très très rapidement. Vous vous retrouvez finalement très seul hein, sur votre yacht. Du coup, vous êtes obligé de courir alors qu'il y a tout pour faire du sport dans la nature. Non, vous avez quand même un tapis de marche. Du coup, il y a la douane qui débarque là. Ben, vous êtes obligé de vous échapper avec une moto pour échapper à la douane et au fisc. C'est une vie stressante quand même, avec le petit buggy. En plus, comme vous ne savez pas le conduire, ben, vous faites des ronds sur le sable, donc vous avez l'air d'un con. Du coup, vous retournez sur votre yacht, et là, il y a la nana, elle vous tend du linge sale, genre, t'as pas fait la lessive. L'autre qui dit « Regarde les tasses à café comme elles sont sales ». Du coup, vous êtes obligé de les laver dans la piscine avec un espèce de vieux bout qui est en train de vous piquer votre femme qu'on a vu au début. Je vous passe. D'ailleurs, la vidéo s'est figée tellement c'est horrible. La vidéo s'est complètement figée. Vous êtes obligé. Alors voilà. Là, on vous dit, OK, pour mériter ton yacht, tu es obligé de voler une des quatre motos. Alors, vous êtes obligé de partir à la Lone Rider avec la moto. Vous n'êtes même pas sûr de retrouver votre slip. Vous ne savez pas si le yacht sera là le soir. Vous revenez. Vous êtes obligé de circuler en plus dans des villes avec des grosses motos et avoir l'air d'un con. Hein. Vous arrivez, bah, vous voyez que c'est plus le yacht, c'est un petit bateau. Et le mec, il vous tend une bière. Genre c'est votre pote. C'est pas du tout votre pote. Enfin, bref. Et du coup, bah, vous partez avec votre Ulysse dans le soleil couchant. Et c'est une vie bien misérable que se prépare Mark Zuckerberg. Il aurait mieux fait de rester dans le caritatif et de ne pas s'acheter un yacht. Bref, plaignons-le. Moi, je suis pour monter un crowdfunding pour sortir Mark Zuckerberg de son yacht. Ouais, en plus, vous êtes à Monaco qui... Soyons honnêtes, hein. Monaco, c'est franchement pas une ville super fun, quoi. La conclusion, c'est pas qu'il faut pas acheter de yacht, mais voyez, par exemple, quand j'aurai mon yacht Naotech, avec les équipes de tournage, on pourra faire... Moi, je vois un yacht comme le bateau du commandant Cousteau. J'aurai mon bonnet rouge, j'enverrai des mecs en hélico faire des reportages tech et tout. Voilà. Ulysse, c'est pas un nom terrible pour un bateau, c'est clair. Voilà, finalement je prendrai pas de yacht. Bah, écoutez, j'espère vous avoir, parce qu'il faut dire la vérité quand même. Et puis alors c'est très mauvais pour envoyer des messages, hein. Un yacht c'est pas très ergonomique, hein. Voilà, il faut le savoir. Bon, après, hein, moi, je dis, quelque part, ça me rassure que Mark Zuckerberg dépense un peu son pognon pour se faire plaisir, quoi. Il va être beaucoup critiqué hein, pour ce yacht. On peut s'y attendre. Il a essayé de faire l'achat discrètement, mais bon, il y a des mecs qui ont quand même vu le truc. Mais moi, je dis très bien qu'il prenne un peu de bon temps avec cette tête de coincé de la classe, là. Hein. Je verrais bien balancer son slip au-dessus de la tête, là, Mark Zuckerberg. Et il ne l'a pas volé. On peut être jaloux, on peut être envieux, mais Mark Zuckerberg a pris des risques quand même dans sa carrière. Il a marché sur des têtes, et effectivement, c'est pas certainement pas un modèle de vertu et tout, mais il y a quand même du boulot derrière Facebook. Et là où il a amené Facebook aujourd'hui, quoi qu'on en pense, même si on n'aime pas Facebook, l'histoire industrielle est intéressante. Voilà. On a dit pas le physique. J'ai pas dit tête de pin. Pas du tout. J'ai dit une tête de premier de la classe. Un gros pouce bleu. C'est vrai que c'est... Il est con. D'abord, je l'aurais tout repeint en bleu et tu mets un gros thumbs up sur le bord de ton yacht. Pas une mauvaise idée. C'était la rubrique People, et c'est sur cette rubrique People que nous clôturons ce Techscope. Dernier Techscope avant nos vacances, mais Techscope ne s'arrêtera pas la semaine prochaine. Vous pourrez découvrir de nouveaux présentateurs la semaine prochaine. Moi, je vous retrouverai, on vous retrouvera Donc ça sera le lundi, sera le 29, je crois. Le 29. Est-ce que tu m'as mis les super chatters, Samuel? Ou il y en a eu que deux, des super chatters? Attends, je vérifie. Comme ça, ça va me permettre de voir si la fonction... Non, je n'ai pas les super chatters. En fait, j'ai l'impression que toutes les... Oui, oui, une question Platinium, mais je voulais voir déjà, Samuel, s'il y avait les super chatters. Oui. Merci donc à Guillaume pour les super chats. Merci à Guillaume, un petit pécule pour vos vacances, merci beaucoup. Jade, merci également pour ton super chat. Et Arnaud aussi pour ta fusion Wiko et Apple. Merci tous les trois pour vos super chats ce matin. Ah, Samuel, ouais, le fidèle assistant. Question Platinium du jour de Benoît qui nous dit. Bonjour Jérôme, j'aimerais savoir si dans l'hypothèse où la chaîne avait de gros moyens, quelles seraient les améliorations que tu aimerais apporter au live le matin, du simple détail au gros chamboulement. Alors, si effectivement on avait les moyens, si on avait les moyens, il faudrait que j'ai un local qui soit vraiment pas loin de mon appart. Pour pouvoir faire effectivement les textos. Ça serait pénible si je devais aller dans un studio tous les matins à cette heure-là. Ça serait assez pénible. Mais si on avait les moyens, je pense que je prendrais une personne à la régie qui permettrait de faire du multicam, de l'incrustation quand même des sujets, des images que vous ayez à regarder, en tout cas à renforcer toute la partie visuelle de Techscope. Après, je ne toucherai pas au côté un peu à la bonne franquette. L'aspect visuel se professionnaliserait, mais l'aspect éditorial, j'aime bien ce côté un petit peu foutraque. On aurait effectivement une bonne connexion. Non, justement, pas à la 01Net. Ce que j'éviterais toujours de faire, et ce n'est pas une critique, hein, mais... je trouve qu'il faut faire très attention quand tu n'as pas les moyens d'une télé à pas faire télé. Parce que tu vas toujours être comparé à la télé. Ça ne serait pas un studio genre avec un bureau, un petit micro, les news dans un écran, moi en cravate ou ce genre de truc, quoi. Si on avait un studio, il ressemblerait à un appart. Il y aurait du canapé, il y aurait du coussin, il y aurait des conneries. Après, c'est des goûts personnels, mais on nous avait proposé à l'époque de No Watch, mais même maintenant, on nous propose des studios pro. Je trouve que c'est froid, impersonnel, et que c'est plus. Voilà, c'est pas ce que j'aurais envie de faire, quoi. Moi, je pense vraiment qu'on peut pousser, vous le voyez bien, ma chaîne. Essaye de pousser de plus en plus le curseur visuel vers une qualité de plus en plus grande, ça n'a rien changé à notre ton. Les gens qui disent qu'il ne faut pas trop professionnaliser YouTube, je pense qu'ils ont tort. Je pense que visuellement, il y a toujours à apprendre et il y a toujours une progression parce que les gens nous regardent finalement sur des écrans de plus en plus grands ou des écrans de plus en plus précis. Donc, on ne peut pas se permettre visuellement de ne pas rester dans la course. Par contre, on peut très bien garder le ton qu'on a tout en ayant des montages plus pro, quoi. Te manque le chat dans le replay. Oui, il faudrait effectivement qu'on puisse avoir le chat dans le replay. Mais ça, c'est le problème, c'est qu'il faudrait que ça soit YouTube qui... Il faudrait qu'on paye YouTube pour qu'il développe ça. Dans la même ambiance que le 24 heures live de Tech News and Test, ouais, par exemple, tout à fait. En fait, c'est pas ton appart, t'es dans le même studio que Norman. Eh oui, tout ça, c'est du carton. En fait, c'est un green screen, là. Vous voyez pas, mais c'est un green screen. Je suis incrusté dans un décor. Et de temps en temps, je vous fais croire qu'il est vrai. Mais regardez, je fais ça. En fait, c'est de la 3D. Vous croyez que je suis en train de, 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 de bouger à une lumière. Mais non, c'est tout ça, c'est des effets spéciaux. En fait, là, je fais le con dans l'air libre. Vous voyez, cette lampe n'est pas vraie. Tout ça, c'est du faux. On vous ment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin? Ça y est, il est reparti. Il faudrait juste faire le live sur PC, en fait. Bah, j'avoue que ça me ferait chier. J'adore le côté, je sors mon smartphone et je balance mon live. J'avoue que c'est pour ça que je suis aussi réticent à passer sur des lives sur PC. C'est que je perdrais... Je sais que je ne vous ai pas fait beaucoup de Techscope ailleurs, parce que je n'ai pas énormément voyagé. Mais j'aime beaucoup l'idée de pouvoir faire Techscope n'importe où, n'importe quand. Des lives n'importe où, n'importe quand, avec juste mon téléphone portable. Et de rien avoir besoin d'autre. Et dès qu'on sera obligé de basculer à de la régie, de l'ordinateur, des trucs, ça va rendre tout fixe. Ça me saoule, en fait. Et je trouve ça pas moderne, pour être honnête. C'est un peu revenir à des vieux... Moi, j'adorerais une régie, mais à la limite, une régie mobile, quoi. Alors, en extérieur, j'y ai pas mal réfléchi à vous faire Techscope en marchant dans les rues de Paris. C'était, je sais plus comment il s'appelle, à l'époque où on était sur Periscope. Il y en a un qui faisait, il fait d'ailleurs peut-être toujours ça. Le truc, c'est que je pourrais pas éditorialement tenir l'émission parce que je peux pas à la fois me filmer, vous faire l'émission, avoir mes notes. Là, ça devient un peu compliqué. Donc, et puis les jours où il fait pas beau, présenter sous la pluie dégoulinante, bof quoi. C'était Réservoir App, oui, effectivement. Et en plus, ce que j'aimais pas dans Réservoir App, c'est que du coup, je trouvais qu'il survolait pas mal les articles et que ça lui donnait un côté essoufflé, en fait. Oui, mais à la limite, moi, ce que j'aimerais faire plus, c'est des Techscope un peu événementiels. Sur des endroits. J'essaye, hein, moi, de vendre à des annonceurs le fait que j'aille faire Techscope chez eux un matin, tu vois, une opération un peu spéciale pour un lancement de produit ou ce genre de trucs. C'est un format que je trouverais intéressant publicitairement. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore acheté. Si, du direct d'événement, on en a déjà fait, ouais. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions ne concernant pas effectivement le live? Mais en tout cas, merci pour ta question, Benoît. Selon toi, est-ce qu'on peut tout vendre? C'est une lourde question philosophique. Chez certaines personnes, oui, tout est à acheter, même leur âme. D'autres, non. Ça dépend des gens. Après, même des gens hyper intègres, est-ce que tout le monde a un prix? Mon cynisme me pousserait à dire oui. Merci beaucoup, Langue de Geek, pour ton super chat. Alors, Super Geek, ce soir, 22h en live sur la post-tech de Vito Mister OnePlus pour parler de la vulgarisation crypto. Et pas j'achète, quoi. Plus accessible, live hebdo. Voilà. La chaîne principale est un peu calme en ce début d'année. Est-ce que tu préfères pas le live? Tu la trouves calme, la chaîne principale? Attends, je fais une vidéo par semaine. Alors, c'est vrai que les vidéos qu'on a... Mais là, il y en a une qui sort aujourd'hui. Les vidéos qu'on a fait... Attendez, on est le 15, vous nous parlez déjà comme si on avait passé 3 mois avec un contenu mou. On est le 19. On avait beaucoup d'annonces à vous faire. C'est vrai que le format depuis le début de l'année, c'est des vœux, c'est vous dire un petit peu où va la chaîne, c'est des fax, c'est des choses comme ça. Mais non, franchement, je préfère pas le live. Le live, c'est bien pour moi parce que c'est beaucoup moins de boulot pour vous faire un contenu tous les jours. Mais j'adore nos vidéos qui me prennent 60 heures de montage. C'est un truc de ouf, mais j'adore ça. Quel est le meilleur jour, heure pour sortir une vidéo? Le jeudi à 18h. Je dis ça, Non, mais c'est un peu ça, quoi. Quand les ados sont rentrés des cours et que certains sont rentrés du boulot, c'est vrai que les 18, 19, on va dire entre 5 et 7 heures le soir, c'est un peu les bonnes heures. Et vaut mieux éviter de sortir le week-end parce qu'il y a une chute de vues le week-end. Mais ça ne m'empêche pas de publier quand même. Moi, j'ai beaucoup de mal à respecter des règles d'optimisation de vues de vidéos. Est-ce que tu utilises un soft de sauvegarde direct, Dropbox, mais pendant... Oui, j'utilise Razorblade. C'est Razorblade, c'est ça? Oui. Qui sauvegarde tous mes disques durs, tout mon contenu en permanence. J'ai essayé de te contacter sur ta chaîne YouTube. Ah, tu parles au petit hybride, d'accord. Je croyais que tu me parlais à moi. Bon, allez, on va arrêter là. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Attends, ça se voit que 18h, c'est la bonne heure. Tu pars au taf, il y a 400 vidéos, ouais. Est-ce que j'ai vu ta... Oui, Yves, j'ai vu ta question ce matin. Je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Au pire, j'y répondrai pendant mes vacances. Mais j'ai vu ta question dans le Tipeee. Razorblade, c'est payant. C'est 4€ par mois, je crois, ou 4 ou 5€. Merci Vertige. Et dites là, Langue de Geek et Vertige, c'est pas à vous de payer. C'est vous qui allez faire Techscope la semaine prochaine. Merci pour ton super chat. Le Scénic Blanc, il m'a trulé 75 garés devant. Je te répondrai sur Tipeee, Yves. Les gens qui me posent maintenant des questions sur Tipeee, comme j'ai expliqué dans Comment nous poser des questions, je leur réponds directement sur Tipeee. Je vais enfin pouvoir aller me coucher après une grosse nuit. Eh bien, écoute, dors bien, Elios. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne journée bien éveillée, un super week-end, une super semaine, puisqu'on vous retrouve. Eh bien, Marion et moi, on sera là le 29. Techscope continue la semaine prochaine avec des remplaçants. Je vous demande de leur faire le meilleur accueil. Et moi, je vous fais de gros bisous et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, tout le monde.